Mesdames, Messieurs, l'Institut d'histoire de la médecine de l'Université de Genève ne pouvait pas laisser passer le 150e anniversaire du Comité international de la Croix-Rouge et du mouvement de la Croix-Rouge sans organiser de manifestation commémoratrice. Elle l'a fait avec des partenaires que sont Genève Humanitaire et le Centre de recherche historique, en deux colloques, avant et après l'été. Le deuxième colloque porte sur la période 1870-1914 et il se déroule actuellement, donc depuis aujourd'hui jusqu'à après-demain, à la Fondation Louis Jeantet de médecine. Il est l'occasion, ce colloque, de cette conférence publique à laquelle, au nom de la Faculté de médecine, je suis heureux de vous accueillir chaleureusement. Son sujet est au cœur des préoccupations de la Croix-Rouge depuis sa fondation, puisqu'il porte sur les soins de santé en danger, et tout particulièrement, bien sûr, le défi qu'il représente pour le XXIe siècle. Comment, pour la Croix-Rouge et les organisations humanitaires, être efficace et impartiaux au milieu d'un conflit armé? Comment répondre aux besoins de confidentialité et respecter les principes éthiques? Comment assurer les soins aux belligérants des deux camps, ou trois ou quatre, parfois, comme aujourd'hui, peut-être dans le conflit syrien, et aussi aux civils, le plus souvent innocents? Pour répondre à ces questions, les organisateurs ont invité le docteur Bruce Echaïa-Chauvin, qui est depuis 2012 conseiller médical du CICR pour le projet « Soins de santé en danger ». Anesthésiste réanimateur de formation, diplômé en santé publique de notre université, après avoir travaillé de nombreuses années sur le terrain, il a été successivement en charge de la division médicale du CICR et du département de la santé de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je lui passe sans tarder la parole, M. Echaïa-Chauvin.
Merci beaucoup, Monsieur Boulameau, Monsieur Roger Durand, je vous remercie, ainsi que Bernardino, de m'avoir invité. Je vous salue tous et un particulier salut à mes anciens collègues du CICR et amis. Je vais aujourd'hui organiser ma présentation de la façon suivante. Nous avons un film qui illustre bien au-delà des mots la problématique des soins de santé en danger aujourd'hui. Il dure 14 minutes, nous n'allons en regarder que 5 minutes, mais je pense que c'est une bonne introduction et à la suite de cette introduction, je vous ferai ma présentation. Voilà, je pense que ces quelques images illustrent non seulement le problème, mais finalement, elles expriment que 150 ans plus tard, les besoins persistent. Donc, les soins de santé en danger représentent un projet du CICR, conduit par le CICR, mais qui dépasse très très largement le seul cadre de l'institution, des sociétés nationales, mais qui couvre l'ensemble des besoins pour les situations de conflit et d'autres urgences. Je précise que je ne vais pas rentrer dans les nuances des autres urgences. Il s'agit juste là d'exprimer les situations dans lesquelles il y a des besoins humanitaires aigus liés à la violence armée et qui ne sont pas considérés comme des conflits. Alors, comme vous l'avez vu, on parle de blessés, on parle de malades, on parle de structures de santé, on parle du personnel et on parle des transports. Cet ensemble représente le projet. Il a cette double perspective d'être analysé à partir des besoins des patients, des malades, des blessés, tout autant que du personnel de santé. Empêcher un médecin de se rendre à l'hôpital, finalement, revient au même que si on a empêché le patient d'aller dans la structure de santé. Un seul acte de violence a des conséquences incalculables. Donc, cet homme qui a dû se cacher dans la forêt pendant la situation du conflit, tout ce qui concerne une population donnée couverte par une structure de santé et son personnel souffre à ce moment-là. Aujourd'hui, par exemple, dans la crise en Syrie, on aura tendance à se concentrer, et à juste titre, sur ces structures de santé qui sont touchées par les combats, en oubliant finalement que l'ensemble du réseau de santé publique, l'ensemble des soins préventifs et curatifs qui étaient couverts par ces structures, c'est incalculable et les dommages sont considérables dans une situation où, évidemment, le paradoxe fait que les besoins sont beaucoup plus importants que dans la situation normale. Alors, on a tout l'édifice du projet est basé sur des données qui ont été collectées, donc au début une étude sur 16 pays, et aujourd'hui le CICR continue à collecter des informations dans 22 contextes différents. Le message que je veux vous faire passer à travers cette diapositive, c'est de vous dire que ceux qui sont touchés ne sont pas essentiellement les humanitaires, mais sont les locaux, que ce soit le système public, que ce soit le système privé. Ceux qui sont touchés directement et de plein fouet, c'est l'ensemble de la communauté. Alors évidemment, il y a aussi les sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge qui sont touchées. Je vous rappelle que le Croissant-Rouge syrien a perdu 22 volontaires, mais ceci est un morceau d'un ensemble beaucoup plus vaste et qui montre, comme je l'ai dit au départ, que malheureusement, 150 ans après, ça reste d'une grave actualité. Quels sont les gens touchés? Essentiellement le personnel médical et les patients qui sont victimes de... Donc dans l'analyse que le CICR a fait, il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont victimes, qui sont blessés, qui sont battus et qui sont menacés. Cette grande majorité de personnel et de patients qui sont menacés représente un quotidien considérable dans les situations de conflit et d'urgence. Ce personnel menacé ne vient plus ou a du mal à travailler et représente justement cette espèce de masse de conséquences que nous avons à affronter aujourd'hui à travers ce projet. Et je dirais tout de suite qu'on n'a pas attendu le projet, évidemment, pour agir là-dessus. Ça fait 150 ans que le CICR travaille là-dessus, mais aujourd'hui, il a été pris dans une perspective beaucoup plus globale. Ça, c'est l'hôpital de Sarajevo. Ça, c'est en Irak, une ambulance qui a tué l'ensemble des personnes qui étaient blessées, personnel ambulancier. Ça, c'est illustre la problématique des armes dans les hôpitaux. Donc, le CICR, dans les structures dans lesquelles il travaille, interdit l'utilisation ou même que les armes rentrent dans les hôpitaux. Mais il y a beaucoup de structures où, malheureusement, ceci fait partie du quotidien. J'y reviendrai plus tard. Toute la problématique de ce qu'on appelle les checkpoints, les points de passage, quand une ambulance doit passer par un point de contrôle militaire avant de se rendre à l'hôpital, ça peut prendre du temps, ça peut prendre parfois beaucoup de temps, et ça peut parfois aussi être particulièrement mal fait. On y reviendra ultérieurement. Qu'est-ce que le CICR a prévu sur le plan stratégique? Donc, je veux d'abord vous dire que ce n'est pas le CICR tout seul. Le CICR a été... on lui a donné la tâche, dans la Conférence internationale de la Croix-Rouge, de conduire ce projet, mais il le conduit avec les autres composants du mouvement, que sont la Fédération et les sociétés nationales de Croix-Rouge. Et il a conduit une large... On est en train de conduire une large consultation. Donc, ce que vous avez en vert, ici, c'est ce qui a déjà été fait. Donc on a d'abord commencé à travailler avec ceux qu'on connaissait le mieux, les sociétés nationales, et on a essayé de réfléchir avec ces sociétés nationales quels sont les enjeux aujourd'hui qui sont ceux des sociétés nationales et comment peut-on y remédier, particulièrement quand on parle des volontaires qui sont dans les lignes de front, particulièrement quand on parle des évacuations sur les structures de santé. Je veux juste vous dire que on a fait un petit peu le tour à travers donc ce meeting d'Oslo, Téhéran et Mexico, et certaines sociétés nationales nous ont parlé de leur dilemme. Alors un grand dilemme qui est apparu aujourd'hui et qui n'existait pas à l'époque d'Henri Dunant, c'est ce qu'on appelle le second blast, la deuxième attaque. Donc il y a une première explosion, tout le monde arrive, et à ce moment-là il y a une deuxième. Et dans ces contextes-là, mettez-vous à la place des responsables des sociétés nationales et essayez de voir comment est-ce qu'on va mesurer, balancer entre le risque pris et l'accès aux blessés qui en ont immédiatement besoin. Et malheureusement, ces contextes se multiplient dans certaines régions du monde, et ça a été un élément très fortement débattu. Un autre, que je livre à votre sagacité, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'équipement personnel de protection. Est-ce qu'on doit équiper ou pas les volontaires avec des gilets pare-balles? La réponse du CICR, c'est non. On ne doit pas équiper les volontaires avec des gilets pare-balles, voilà, parce que les volontaires sont protégés par l'emblème qu'ils portent et par la compréhension de l'ensemble de ceux et celles qui travaillent avec eux. Mais il y a les sociétés nationales qui disent, excusez-nous, mais chez nous, ça ne marche pas. Chez nous, il faut qu'on ait des casques, il faut qu'on ait des gilets pare-balles, et dans certaines situations, il faut qu'on ait plus. La seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'escorte armée. Parce que l'escorte armée est définitivement le signe qu'on fait partie d'un côté et qu'on n'est plus neutre. Nous avons eu plus récemment un très intéressant séminaire à Ottawa où on a analysé la question qui concerne ce qu'on appelle la sécurité physique des hôpitaux et des structures de santé. On avait défini ça en quatre secteurs différents. Un secteur qui consiste finalement à réfléchir sur un hôpital dans une zone de conflit, à quoi il doit penser pour être autonome. Le deuxième aspect, c'était de travailler avec des directeurs d'hôpitaux qui puissent nous faire partager leurs expériences quand le docteur Youssouf vous parle et vous dit « Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive avec sa Kalachnikov et dit « Tu vas prendre mon patient et tu vas laisser tomber celui-là » Le docteur Youssouf n'a aucun choix. Et ce n'est pas simplement les groupes armés qui rentrent dans les hôpitaux, c'est parfois les familles qui arrivent avec les mêmes outils pour exiger les mêmes privilèges. Nous avons eu l'occasion aussi de discuter évidemment de la protection physique, les sacs de sable, les plastiques, et puis aussi de voir finalement, quand un hôpital dans une situation de conflit doit se déplacer, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il privilégie? Nous allons avoir le suivi de cette recherche à Pretoria en avril l'année prochaine. Et je ne peux pas résister à vous parler un tout petit peu de Dakar. Dakar qui était censé être le premier et dernier, en fait, meeting avec la société civile. On voulait travailler avec la société civile. Et notre délégation régionale de Dakar, finalement, a réuni un groupe très intéressant, qui étaient les oulémas et des leaders religieux de toute l'Afrique de l'Ouest, du monde musulman. Nous avons utilisé les soins de santé en danger entre la jurisprudence islamique et le droit international humanitaire pour organiser nos discussions sur des choses où les gens ont été extrêmement honnêtes sur beaucoup de choses, y compris les problèmes rencontrés dans certains pays, où les vaccinateurs eux-mêmes deviennent une cible et donc ont des conséquences sur le système de santé publique à long terme. Il nous reste deux séminaires très importants. Le premier va avoir lieu dans quelques semaines à Sydney Et là, on va travailler avec les militaires, on va travailler avec les porteurs d'armes, on va travailler avec les pros, et on va leur demander un certain nombre de choses. Alors, on va leur demander s'ils ont des procédures qui concernent les évacuations et les passages de checkpoint pour essayer de voir si, avec les professionnels, on peut réussir à tirer des recommandations qui serviraient à différents contextes. On va aussi parler avec eux des aspects qui sont ceux des opérations de recherche dans les hôpitaux, quand une armée rentre pour vérifier un certain nombre de choses, et elle ne le fait pas toujours avec des gants, comme vous vous en doutez. Donc de voir encore là quelles sont les recommandations qu'on peut tirer, les combats autour des structures de santé et l'utilisation des emblèmes protecteurs. Je dis des emblèmes protecteurs puisqu'il n'y en a pas qu'un seul. Et nous savons, en tous les cas au CICR, que dans certains contextes, les emblèmes protecteurs sont un problème, à tel point que dans certaines armées, ils sont retirés des véhicules parce que les véhicules sont pris pour cible. Donc tout cet ensemble va être discuté à Sydney et les recommandations discutées ultérieurement, je vais y venir. On va avoir aussi, donc ici, vous avez au niveau du numéro 6, on va discuter avec des législations nationales. Comment une législation nationale protège ou ne protège pas son personnel et les patients. Ça vous paraît peut-être un petit peu au-dessus finalement du film qu'on vient de voir, mais c'est très au cœur de nombreuses questions qu'on est amené à se poser, en particulier quand on parle de l'impartialité de l'assistance. Je prends un exemple simple, un pays dans lequel le ministère de la Santé exige de ses médecins qu'il dénonce, ou en tous les cas dénonce, le terme est mal choisi, qu'il informe le ministère de Santé de manière systématique quand il y a des blessés par balle. Un blessé par balle doit être déclaré, et à ce moment-là, la police suit et vient l'arrêter. Donc, comment organiser les soins dans des situations où l'impartialité peut être remise en cause ? Qu'entend-on par personnel de santé, ça veut dire qui est protégé et ne l'est pas dans une législation donnée. La protection de l'emblème, j'en ai parlé, avec un exemple très intéressant, celui de la Colombie, qui a eu l'occasion de travailler, pour les raisons que vous connaissez, sur la protection de la mission médicale, et qui a mis en place une législation nationale avec un sigle particulier pour la protection de ces structures de santé. Les sanctions et la question des fondements de l'éthique. J'ai parlé des déclarations obligatoires, j'aurais pu parler aussi des aspects de confidentialité et de transmission d'informations de manière générale. Ces aspects vont être discutés à Bruxelles et vont être ensuite colligés sous forme de recommandations. Le monde d'Henri Dunant a un tout petit peu évolué. Nous sommes dans un monde global et dans lequel on ne travaille pas tout seul. Donc, on travaille avec un certain nombre d'organisations que j'ai listées ici. Je vous dis brièvement, avec évidemment l'OMS. L'OMS est aussi, je dirais, dans sa fonction et sa relation avec les ministères de santé en première ligne d'un tel projet. Nous essayons d'avoir avec l'OMS une relation stratégique, mais elle n'est pas forcément très simple. Ceux qui ont dans cette salle fréquenté les gouvernements savent que certains gouvernements vont certainement résister à avoir trop d'implications dans des domaines de protection, en particulier de la mission médicale. Médecins sans frontières a un projet à part entière, qui s'intitule en anglais Medical Care on the Fire, et donc ils ont traduit, j'ai oublié, excusez-moi, sa traduction. Le projet est le même, a les mêmes objectifs, mais porte un nom différent parce que nos institutions travaillent avec des méthodes différentes et donc on ne souhaitait pas qu'il y ait des mélanges de genres. J'ai découvert le Comité international de la médecine militaire, une organisation qui regroupe 100 pays avec les structures de santé qui appartiennent aux armées. Et nous participons, avec d'autres collègues, le docteur Paul Bouvier, entre autres, du CICR, à des meetings d'éthique organisés par les médecins militaires, avec des débats absolument fascinants. Vous savez, finalement, le médecin militaire, il est un petit peu dans la même position que le médecin qui est en charge des prisonniers. Il a deux patrons. Il a sa profession comme patron, et puis il a soit le directeur de la prison, soit le responsable de l'armée, et les deux ne vont pas toujours bien ensemble. Donc, on essaye de construire une relation avec ce Comité international de médecine militaire, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, l'Association médicale mondiale est avec l'OMS, fait partie des tout premiers partenaires de ce projet. Nous avons signé un Memorandum of Understanding avec l'Association médicale mondiale et avant-hier avec le Conseil international des infirmières. Le Conseil international des infirmières est une institution qui représente 135 pays, 16 millions d'infirmières dans le monde, et nous pensons justement pouvoir déployer beaucoup d'efforts à travers ces réseaux. La Fédération internationale des hôpitaux, pour être très franc, je ne savais même pas que ça existait, est une organisation aussi qui regroupe 60 pays. Et quand je suis allé les rencontrer, que je leur ai parlé de ce que nous faisions à Ottawa, de ce que nous allions faire à Pretoria, j'ai rencontré aussi un immense intérêt. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ce projet qui m'ait dit « ça ne marchera pas votre truc ». Ça, c'est pas là, c'est pas bon. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème. Et je vous dirais que par conviction, je pense qu'aucune organisation seule ne pourra faire quelque chose, mais que nous pourrons faire quelque chose si nous dépassons une certaine masse critique, qu'elle soit politique ou pratique. Les milieux académiques, je pense que nous devons travailler aussi avec, par exemple, la Fédération internationale des étudiants en médecine. Je pense qu'il y a beaucoup de réseaux académiques qui peuvent nous aider dans cette tâche parce qu'elle est de longue haleine. Donc, la stratégie du CICR comprend trois volets, un volet opérationnel, le volet d'experts auquel j'ai fait allusion et une campagne de communication. Pour ce qui concerne le volet opérationnel, comme je l'ai dit, beaucoup de délégations, beaucoup de pays, beaucoup de collègues n'ont pas attendu l'initiative du CICR pour faire des choses intelligentes, pour protéger les patients et le personnel de santé. Nous sommes dans un processus de colliger l'ensemble de ces expériences pour les partager avec l'ensemble de la communauté concernée, comme je l'ai évoqué précédemment. Alors, nous avons dans les étapes, c'est un projet sur 4 ans. Donc, la tâche a été donnée en 2011 au CICR de faire une stratégie et de développer le projet. Nous terminerons en avril 2014 l'expertise. Et à partir de là, nous allons colliger l'ensemble des recommandations dans un document et nous allons les soumettre aux États, en tous les cas pour les recommandations qui les concernent. Et là, toute la diplomatie du CICR sera mise en œuvre pour essayer d'atteindre, autant que faire se peut, les processus décisionnels. Et fin 2015, nous ferons notre rapport à la conférence internationale. Tout le monde sait ce que c'est que la conférence internationale ? Très bien. Vous savez. Très bien. Non, mais
c'est un animal un peu particulier, donc il faut le rappeler.
Vous avez raison. La conférence internationale, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est tous les gouvernements signataires des conventions de Genève. Là, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'on m'écoute. tous les gouvernements signataires des conventions de Genève toutes les sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et le CICR. Tous les 4 ans, cette réunion a lieu au CICG à Genève et elle contribue à faire évoluer le droit international humanitaire. Elle contribue justement à résoudre les problèmes humanitaires sur le terrain. Donc cette conférence, elle est extrêmement importante. Elle a lieu tous les 4 ans à Genève et elle sera donc en 2015 le support sur lequel le projet donnera ses conclusions. Alors, ceci est ma dernière diapositive. Toutes mes excuses, ce livre que je devais, Monsieur Durand, vous apporter en français, tout est parti au Conseil des délégués à Sydney et je n'ai pas trouvé un seul exemplaire en français à apporter aujourd'hui, mais je vais en recevoir et je vous les communiquerai. Ceci est le premier produit, en quelque sorte, de la, du projet des soins de santé en danger. C'est un outil pour le personnel de santé qui est confronté au problème de la violence armée. Il succède à un document que le CICR avait publié dans les années 80, qui était la protection de la mission médicale. Et réactualisé, ce document est un outil simple et concis qui permet aux gens de comprendre quels sont les droits et devoirs qui s'appliquent dans les situations de conflit, quels sont les droits et devoirs qui s'appliquent dans les autres situations. On a tout au début montré la situation, les premières images du film sont celles de Bangkok en 2010, quand les chemises rouges et les chemises jaunes se tapaient dessus à Bangkok. C'était une situation très grave, potentiellement sur le plan humanitaire, mais une situation dans laquelle le droit international humanitaire ne s'appliquait pas. Donc, nous sommes allés voir les autorités de la santé à l'époque pour leur proposer les services traditionnels du CICR. La seule chose qui m'était été demandée par le ministère de la Santé publique, avez-vous quelque chose que je puisse distribuer dans mes hôpitaux sur les droits et devoirs du personnel. Et nous ne l'avions pas à l'époque, nous serions donc plus adaptés aujourd'hui. 3 mots-clés, quand je présente ce livre, je présente ce livre dans les séminaires dans lesquels je suis invité, et je dis aux gens, si ce côté de la salle est en train de se bagarrer contre ce côté de la salle, vous avez le droit de ne pas être neutre. Vous avez le droit d'avoir une opinion. Vous avez le droit d'être d'un côté ou d'un autre. Mais quand vous mettez votre blouse, vous avez le devoir d'être impartial. Et ça génère des discussions finalement extrêmement intéressantes. L'impartialité, dans mon expérience, et pour le personnel de santé auquel je me suis adressé, a, dans un certain sens, plus de compréhension possible que le concept de neutralité. Voilà. Je vous le livre tel quel, et je vous laisse y réfléchir. Et le mot qu'on prononce le moins dans ce projet, c'est le principe de l'humanité. Et moi, je pense, si vous voulez, que ce projet, c'est sa racine. Et que, quand j'ai lu les différents documents que vous m'avez donnés pour l'organisation de ces journées, le mot « humanité » revient très souvent. Et je pense qu'il devrait venir encore plus souvent dans notre projet. Je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de Dakar. Ce qui faisait le lien entre les individus, donc le monde académique musulman, les leaders religieux, et d'autres contextes, c'est ce que nous avons en commun, c'est le principe d'humanité. Je vous remercie.
Merci.
Alors là, je vais vous dire, il y a trop de grosses pointures légales dans la salle pour que je vous réponde. Là, je vais passer la main. Je vais passer la main. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous répondre. Je veux juste vous dire que là, sur la question, moi je vais vous faire lecture de votre question, mais sur un plan de professionnel de terrain, sur la question de l'impunité. Laissez-moi vous redire ce que j'ai dit à M. Durand quand il est venu me voir. Pour moi, l'action humanitaire repose sur trois piliers. Elle est d'abord le résultat d'une émotion. D'accord ? Elle est une émotion par rapport à une situation qui est insoutenable. Ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'était quelque part de la légiférer, donc de développer ce droit. Et finalement, le troisième pilier pour moi, c'est la diplomatie humanitaire, c'est tout le travail politique qui est fait pour mettre ces éléments ensemble. Donc pour ce qui concerne la question de l'impunité, quand vous parlez avec un responsable quelqu'un qui est responsable de l'attaque sur un hôpital, quelqu'un qui est responsable des mauvais traitements dans une prison, vous ne venez pas nécessairement avec un cadre légal, mais vous venez dans le cadre d'une relation d'individu à individu qui, quelque part, essaye de trouver un modus vivendi. Et quelque part, si vous voyez, j'ai envie de dire, on fait changer des attitudes par des attitudes. On fait changer des individus sur le plan pratique dans une prison quand, quelque part, on réussit à les convaincre que s'occuper de la santé, ça peut contribuer à la sécurité. Alors, j'ai pas vraiment totalement répondu à votre question. Je ne sais pas si Sonorma, vous voulez dire quelque chose.
Non, je crois que c'est une question très vaste, n'est-ce pas ? Il est vrai qu'on a maintenant des procédures pénales légales internationales avec le nouveau tribunal criminel international qui est à La Haye. Et là, il y a un certain domaine de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre qui sont dans les conventions de Genève, qui peuvent être invoqués pour poursuivre quelqu'un. Et puis il y a les tribunaux nationaux qui peuvent aussi fonctionner dans ce sens. Alors, il faut voir chaque cas un peu comment il peut être résolu.
Et un cadre national peut aussi décider qui coordonne quoi. Ce seul élément-là est dans beaucoup de contextes la source de beaucoup de problèmes et pour les patients et pour le personnel de santé. Donc il n'y a pas que la dimension répressive qui doit être induite dans les législations nationales. La question qui est responsable finalement de l'emblème dans un pays donné, ça varie beaucoup. Donc le seul fait d'amener les gens à réfléchir sur des questions de confidentialité, d'éthique médicale en amont des problèmes est à mon avis quelque chose qui est important, au moins ce sur quoi s'appuyer quand le conflit éclate.
Je peux faire une remarque à ce sujet. Je comprends bien qu'il puisse y avoir une tension entre les rôles traditionnels du CICR. Vous avez très bien écrit, hein, vous avez dialogué avec des individus plutôt qu'à avec de la répression, et ce genre de démarche devant un tribunal national ou international. Mais c'est vrai que dans la mesure où dans ce projet, vous êtes dans un partenariat avec de multiples entités, je me demande si ça, c'est pas quand même une dimension qui devrait avoir sa place également. Parce que même si on arrive vite à la limite de nos moyens, on comprend bien dans les terrains dont vous parlez, il reste néanmoins que dans les régions du monde où les coûts sont unis, on arrive plus facilement à avoir moins quand les régions elles ne le sont pas. Et même si ça peut ne pas être la tâche du CICR de s'occuper de cette dimension-là, vous avez ça.
Bon, la mobilisation des partenaires. La semaine dernière, je vous dire que même pour les partenaires, c'est pas facile non plus. Hein. J'ai participé à l'assemblée annuelle de l'Assemblée médicale mondiale qui avait lieu au Brésil, et j'ai participé au débat sur deux questions importantes qui sont la déclaration d'Helsinki sur l'expérimentation médicale et l'histoire de, est-ce que l'homosexualité est une maladie ou pas ? Parce que certains, semble-t-il, se posent encore la question. Et c'est extraordinaire de voir que dans ce cadre-là, si vous voulez, vous avez des disparités entre... Donc je crois que ce que nous attendons de ce projet, si nous voulons vraiment faire une différence sur le terrain, c'est dans les pays qu'on doit travailler. C'est-à-dire que finalement, moi j'ai travaillé beaucoup sur le terrain, jamais j'ai assisté à une réunion dans laquelle on se posait la question sur la protection du personnel de santé, la protection, l'accessibilité des patients au système de santé. Et donc, si nous réussissons quelque part à générer cette masse critique, je pense que c'est la seule façon de faire une différence.
Je me permets justement de vous demander quelque chose sur l'emblème. Tout d'abord, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que les Colombiens ont inventé comme emblème protecteur à eux. Et puis, au fond, sur la base du film que vous avez montré, on a vu qu'on était dans des situations presque toujours de conflits internes, conflits armés non internationaux. On n'a jamais vu l'emblème protecteur sur les structures. On l'a vu seulement à un moment donné sur des délégués du CICR et d'une société nationale. Donc, je crois que là, il y a un problème, parce qu'il faut qu'on puisse reconnaître toujours une structure de santé pour qu'on puisse dire qu'il ne faut pas l'attaquer. Alors, je ne sais pas si on peut promouvoir encore plus l'utilisation en conflit armé de l'emblème, que l'un ou l'autre, parce que c'est juste de dire ce que vous avez dit, parfois l'emblème pourrait être aussi une cible.
Bon, encore une fois, il y a d'autres compétences dans la salle pour répondre à ça. Mais ce que le débat sur l'utilisation de l'emblème chez les militaires est un débat qui est apparu essentiellement en Afghanistan. Et donc, des contextes dans lesquels certaines armées ont dû reconnaître que ça les transformait en cible. Mais ça concerne le monde militaire. La question de l'identification, de manière générale, est apparue dans tous les séminaires. Et une identification qui peut être, en effet, celle de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, ou le troisième emblème, mais la question, c'est surtout que ce soit identifié. C'est-à-dire que dans un contexte donné, tout le monde sache que ça, c'est l'emblème protecteur. Les Colombiens, avec le CICR, avec leur société nationale, et avec des dialogues avec l'ensemble des parties au conflit, sont arrivés à un sigle particulier, qui est le leur, et qui est un sigle protecteur pour les Colombiens.
Mais qui s'approche de quoi ? De l'emblème de la Croix-Rouge, ou plutôt d'un...
C'est un problème
de l'ONU avec...
Non, c'est une...
médicale, est-ce qu'il y a le ouais. serment
Il y a... C'est une croix blanche dans un rond bleu. Je ne l'ai pas avec moi, là, mais je vous envoie ça très volontiers. Mais plus particulièrement, je pense que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le gouvernement est... éprouver, je veux dire, ce besoin quelque part d'avoir un système d'identification particulier. Ce qu'on voit dans le projet, finalement, c'est que les choses tournent toujours autour de quatre éléments. Je l'ai évoqué tout à l'heure, l'équilibre entre l'accès et la sécurité. Ça, c'est une évidence. Mais quelque part, c'est important de la rappeler pour que l'ensemble des acteurs aient quelque part les mêmes mécanismes d'approche de l'analyse du phénomène sécuritaire. Et puis les deux autres, c'est la perception et l'acceptance, c'est-à-dire finalement comment est-ce que l'ensemble des acteurs perçoivent l'action de ceux qui viennent et comment est-ce qu'ils l'acceptent. Et avec les nuances, si vous voulez, qui peuvent concerner les individus et les institutions. On a, si vous permettez, une anecdote, mais très intéressante, j'ai trouvé, qui était le problème du recrutement. Comment est-ce qu'une société nationale, ou finalement un organisme, recrute ? Il devrait, normalement, recruter sur la base de toutes les différences qui existent dans sa société. Vous savez, quand on montre, par exemple, les volontaires de la Croix-Rouge française qui sont battus dans certaines banlieues parisiennes, y a un problème. Et donc, la réponse à ça, c'est de dire on doit avoir une expression de l'ensemble des composantes de la société. Et à ça, certaines sociétés nationales, comme les Libanais par exemple, avec lesquels j'ai travaillé, disent ça, c'est pas le problème. Et pourtant, au Liban, autant vous dire que des différences, il y en a. Hein. Ils disent c'est le plus important pour que le volontaire soit bien perçu, c'est son attitude et sa capacité à comprendre les principes de la Croix-Rouge. Donc finalement, dans ce contexte-là, on dira on n'a pas besoin de cette représentation. Par contre, d'autres pays, on dit on ne peut pas travailler avec certaines ethnies qui vont chez d'autres. Enfin, voilà.
Vous êtes à mi-chemin de votre projet, mais je me demandais qu'est-ce que vous faites actuellement pour préparer les gens sur le terrain
aujourd'hui.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait déjà ? Je peux imaginer que vous avez peut-être de la peine à recruter des gens quand vous avez besoin où le danger est réel, où les soignants sont en danger, les patients. Est-ce que vous pouvez préparer les gens par rapport à cette angoisse qui va vivre au quotidien ?
Alors bon, là, je ne sais pas où on en est du recrutement du CICR. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'élus. Et que quand les individus rentrent dans le mécanisme du recrutement pour le CICR, en tous les cas, ils suivent une formation qui les aide, quelque part, à avoir des points de repère solides pour affronter ce genre de situation. Y compris ce qui est apparu, je dirais, dans le milieu des années 90, qui est le soutien psychologique. Le soutien psychologique, c'est-à-dire que quelque part, d'avoir intégré la notion que on pouvait craquer, dans tous les sens du terme, que ce soit du côté des bénéficiaires ou que ce soit du côté de ceux qui soignent. Les sociétés nationales fonctionnent de la même façon. Et évidemment, je ne pourrais pas vous donner une perspective mondiale. Je pense que je serais pas compétent pour le faire. Mais en tous les cas, j'ai la conviction qu'il reste encore beaucoup de gens qui sont disposés à aider d'autres gens. Mais leur formation, leur soutien, des aspects de régularité sont des éléments qui sortent de tous les séminaires. Et en particulier, une chose que j'ai personnellement apprise, c'est l'accent apporté sur les chauffeurs. Le chauffeur au checkpoint, le chauffeur comme point d'entrée, point de sortie. L'élément qui, parfois, est un élément qui peut représenter une certaine fragilité dans la chaîne du soin. Donc, toutes les sociétés nationales se sont mises d'accord pour dire qu'un accent particulier devait être porté sur ce groupe.
Je vous remercie de cette présentation à la fois captivante et assez préoccupante. Est-ce que votre action vise principalement mouvement Croix-Rouge, ou est-ce que votre ambition, c'est de trouver une solution, une ébauche de solution pour l'ensemble des soins de santé? Parce que c'est pas du tout la même chose.
Non, c'est pas la même chose, je suis d'accord. C'est pour l'ensemble, mais, clairement.
Mais on est 2015, donc c'est dans 2015. deux minuscules années, une année et demie minuscule, vous avez une cible quand même, vous avez un objectif.
Oui.
C'est une nouvelle convention internationale, c'est
non.
Une charte, est-ce qu'on ose vous demander, parce que si on est devant autant d'efforts, c'est pas uniquement pour avoir des conversations et découvrir un tas d'organismes internationaux, c'est bien qu'on aimerait aboutir à quelque chose de concret.
Exactement.
Alors la prochaine conférence HDR, c'est le cas, mais c'est pas concret. Qu'est-ce bon. Que vous allez proposer?
Alors, nous sommes, bon, donc, pour répondre à votre question, le projet dépasse largement le cadre du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le projet, dans sa formulation, est clairement pour l'ensemble du personnel de santé, et donc, dans certains contextes, de trouver les outils pour définir ce personnel de santé. En 2015, même si on est très bon, on n'aura pas résolu les problèmes. Pas dupe, si vous voulez. Et il ne s'agit pas d'un nouveau traité, on n'est pas dans les mines antipersonnelles, on n'a pas à inventer un nouveau droit. On a à trouver des outils pour faire valoir le droit existant. Et quelque part aujourd'hui, si vous voulez, c'est ça l'enjeu du projet, c'est de construire des recommandations qui parlent aux individus, qui parlent aux États, qui quelque part contribue à résoudre les problèmes, et je le répète, la résolution de ces problèmes, c'est pas au niveau de l'Assemblée médicale mondiale, c'est pas au niveau du Conseil international des infirmières, c'est sur le terrain. C'est quelque part de faire en sorte de créer des synergies dans les contextes affectés pour que une différence s'opère. Donc, je ne suis pas là dans un processus qui va s'arrêter fin 2015, mais un projet qui va rendre son travail et qui espère avoir généré un intérêt dans différentes organisations, dans différents contextes, pour que les choses évoluent. Et à 150 ans, il fallait être vachement ambitieux aussi.
Ce qui est amusant,
nous le restons. Ah, c'est bien que vous donniez cette anecdote, parce que finalement, c'est quoi une ambulance? Et dans l'expérience acquise par le CICR, on en a vu de toutes sortes, y compris des animaux ambulants, y compris des hamacs, y compris plein de choses. Et donc, vous voyez, ça reste toujours d'actualité. Oui, allez-y.
Il y a d'autres.
Il y a mon ami Béat.
Une question un peu en lien avec ça. Est-ce que vous avez présenté plus ou moins quelques chiffres? Vous avez une sorte d'observatoire où les pays, les différents mouvements, les contextes peuvent vous rapporter pour un peu savoir l'évolution et les enjeux?
Alors, le projet dans sa... dans sa dimension de projet, c'est-à-dire dans sa durée de 4 ans, un certain nombre d'objectifs mesurables. Voilà, ça c'est pour nous. Maintenant, je pense que pour les données, là il faut faire preuve d'une très grande prudence. Les données que nous avons ne sont en aucun cas représentatives. Elles illustrent simplement la problématique. Et je crois qu'il sera très difficile... On a eu des entretiens avec différentes institutions. C'est un des aspects qui sera sûrement difficile à mesurer, de dire, finalement, est-ce qu'il y en a moins ou plus qu'avant? Il y aura des éléments de satisfaction, peut-être, qui seront plus après qu'avant. Mais la mesure par elle-même est rendue très complexe par la nature confidentielle des informations que nous recevons, et quelque part, qu'on n'est pas nécessairement capable de partager avec d'autres.
Pour ceux qui ont des ambulances, il faut aller au musée international de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge de Castillon et de l'Estillière. Et je salue ici la conservatrice Maria Grazia Baccaro, parce qu'il y a une très belle exposition des ambulances dans les guerres de l'indépendance d'Italie du 19e siècle jusqu'au moderne. Mais ce que je voulais encore dire, au fond, c'est très important, cette date de la conférence internationale de 2015. Et je crois que ça serait idéal si, en plus du rapport que vous allez faire, vous pouviez, c'est mon sentiment, proposer à la conférence des recommandations qui pourraient entrer dans une résolution de la conférence. Parce que cette conférence représente, vous l'avez dit, au fond, pratiquement l'universalité des États, parce que ce sont les signataires des conventions de Genève. Puis, à travers les sociétés nationales, la connaissance du terrain directement, et puis à travers le CICR, l'initiateur du projet. Et si on arrivait à faire des recommandations relativement simples, mais claires, ceci pourrait être distribué très amplement dans tous les milieux de santé du monde. Mmh.
Ben, je vous remercie pour cette remarque. Je pense que l'objectif, donc, c'est la construction de l'ensemble des recommandations qui vont sortir des différents groupes d'experts, donc des perspectives des législations nationales aux militaires en passant par les sociétés nationales. L'objectif n'est certainement pas de développer des choses compliquées, parce que les choses le sont déjà assez comme ça. Sous quelle forme ces recommandations vont apparaître en 2015, je serais incapable de vous le dire aujourd'hui. Mais je retiens votre recommandation. Marion ?
D'abord, bravo pour le projet. Je le trouve impressionnant. Je trouve formidable toutes ces consultations que vous faites. Mais j'ai une question de nature assez générale. En fond, j'ai l'impression que depuis les 10 dernières années, le respect de la mission médicale s'est détérioré gravement. Il y a toujours eu des violations de la mission médicale dans tous les conflits. Mais je suis sous l'impression qu'il y a quand même des tabous qui sont en train de tomber. Alors, ma première question, c'est, est-ce que mon impression est réelle, ou est-ce que c'est parce qu'on en parle beaucoup plus que j'ai cette impression? Et puis, ma deuxième question, c'est si vraiment on est sur une pente déclinante assez grave, comment est-ce qu'on l'explique? Pourquoi est-ce que c'est généralisé dans tous les conflits? Est-ce qu'il y a des conflits où, à bonne heure, vous voyez que la mission médicale est mieux respectée? Voilà, parce qu'il y a quand même tout cet aspect de prévention.
Hein, très important.
Il y a l'aspect de prévention, d'avoir accès, mais l'aspect préventif, et pour savoir comment prévenir, il faut savoir quelles sont les racines du mal.
Oui. Alors, pour ce qui concerne la première partie de la question, bien que on n'est pas vraiment donné dur pour affirmer que le phénomène est en expansion, tout porte à y croire. Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de constater que l'exemple de la Syrie est vraiment un exemple malheureusement particulièrement illustratif. Mais je dis toujours, la Syrie, c'est un bon outil pour comprendre le problème, mais évidemment, pour les solutions, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup d'autres contextes dans lesquels il y a aussi des problèmes et il y a aussi des solutions. Donc, pour ce qui concerne la deuxième partie de ta question, je pense que j'étais à Téhéran, assis à côté de la vice-présidente de la Croix-Rouge espagnole, qui est une femme qui fait de la chirurgie, qui a fait beaucoup de missions pour MSF, pour le CICR, et qui me disait, mais chez moi aussi, il y a de la violence. Combien voit-on aujourd'hui de services d'urgence attaqués dans nos pays ? Combien voit-on de situations dans lesquelles la mission médicale est en cause dans nos propres contextes? En d'autres termes, ce n'est pas seulement chez les autres. Et je crois qu'il y a... Je ne suis pas grandiloquent, mais je pense que quelque part, la fonction médicale a perdu des plumes. je crois que il y a quelque chose. Le mot a été utilisé à Dakar. La sacralisation des lieux s'est perdue. Et je crois qu'elle est. Alors, je ne veux pas rentrer dans des explications qui ne seraient que mes propres sentiments. Mais je crois qu'il y a quelque chose là qui fait partie de l'évolution de nos sociétés de manière générale. Et je pense que, mis à part le fait que je crois à ce projet, que je suis fier de travailler pour une institution qui a lancé un projet de ce genre, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle pour le mouvement de se réenraciner dans quelque chose qui fait partie de son histoire. Je pense que c'est aussi quelque part un moment unique où on a peut-être l'opportunité de faire balancer les choses sur quelques années.
Merci beaucoup pour cette présentation. Trois remarques très rapidement. La première, c'est finalement, ça nous ramène très exactement à 150 ans en arrière. Ce projet, il touche la question fondamentale de la neutralité de l'acte médical. C'est ça qui était le point de départ de ce qui est devenu la première convention de Genève de 1864. Et tous les développements ultérieurs du droit international humanitaire sont issus de ce premier développement. Il faut le garder à l'esprit. Et puis, bien sûr, la question de l'emblème est très directement liée à ça, puisque c'est à la fois la manifestation d'appartenance au service de santé, l'identification, et puis c'était traditionnellement l'instrument principal de protection. Ma deuxième remarque a trait à la question de la répression qui a été soulevée, qui est aussi la répression des violations, une question très importante. Tous ceux qui ont un tout petit peu d'expérience militaire savent que malheureusement, chez beaucoup de gens, à partir du moment où on revêt l'uniforme, il y a un sentiment d'impunité, y compris en tant que père, qui amène beaucoup de petits délits, malheureusement. Et évidemment, dans la situation de guerre, on multiplie ça dans des proportions gigantesques. Et certainement, une répression est indispensable. Il y a une attente des victimes, ça ne suscitera personne, malheureusement. Mais le sentiment que justice doit être faite, et il y a le sentiment que si il n'y a aucune répression des violations, ben évidemment, à la longue, c'est des règles. Parce qu'on sait qu'on peut les violer dans l'impunité. Il y a une obligation des États, ça a été rappelé par M. Soraluga, et des mécanismes internationaux. Cela dit, on doit être conscient que la répression s'exerce toujours avec un. Donc c'est après que le délit a été commis que les mécanismes de répression peuvent commencer à se mettre en œuvre après qu'il ait été constaté. Constaté, donc il faut d'autres formes aussi d'action. C'est un instrument parmi d'autres et c'est pour ça que les conventions de Genève ont mis en place ces mécanismes. Et puis ma troisième remarque, c'est que ce n'est certainement pas un problème de lacune du droit. Donc la solution n'est certainement pas de l'adoption d'un traité, d'une convention, etc. Les textes qui sont là, on sait ce que c'est, dans les conflits internationaux, dans les conflits internes, c'est un problème d'irrespect de textes existants. Et ça doit très clairement être conçu dans cette question. D'où l'effort du CICR, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que ce n'est pas un CICR qui part seul au front comme un Don Quichotte, mais c'est justement cet effort gigantesque de mobilisation par cette concentrique, d'abord au sein du mouvement, ensuite avec toutes sortes d'autres partenaires que tu as rappelés. Et puis tout ça, ça doit déboucher sur une prise de conscience, sur une responsabilité politique. Et dans ce sens-là, je pense effectivement que la conférence internationale de la Croix-Rouge, bon, c'est pas un forum où nous sortira la solution, ce problème, on ne va pas se faire d'illusion, mais c'est quand même un forum privilégié, puisqu'il y a cette particularité du dialogue des institutions de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec les États. Donc, c'est pour moi un forum très important pour arriver à mobiliser les États par rapport à ce projet et amener à prendre conscience, je crois, d'une dérive, même si personnellement, je n'ai pas connaissance de facteurs quantitatifs, on a quand même le sentiment d'une dérive dans le sens de la radicalisation des conflits
one hand, and on the other hand, what has been happening to United Nations peacekeeping operations, which for many decades was a kind of a safe operation, which was respected with very few casualties. And in the last 20 years and today, the United Nations peacekeepers are not respected as they used to be. There is an erosion of respect and so on. And I imagine that maybe this kind of discussion is taking place, or should take place, within the United Nations peacekeeping operations. And I wonder whether somehow one can learn from this. Because, as I say, I see similarities. One of the points you mentioned about protective gear for Red Cross workers, the same as United Nations peacekeepers now, somehow should have been provided with more protection and so on and so forth. So I'm just wondering, is there something to be learned, maybe, from United Nations peacekeeping operations and how they are addressing, in many ways, the same sort of issue? No longer respect, great danger, and so on and so forth, which is a fairly new phenomenon, as I think is the same as the case with the medical intervention of the Red Cross.
Yeah. No, I think you have a very valid point. I think the contacts that we have established with DPKO so far have been mainly related to situations in which DPKO has been involved in, you know, incidents or next to them, or so. The connections we have with them is more related to the events. I haven't honestly thought about your idea to say, you know, the respect vis-à-vis DPKO and the respect vis-à-vis the medical mission might be an interesting cooperation. So I take it, but I don't have much to say right now.
May I give my answer to your point? I think that there is a big problem with the neutrality of the United Nations. You may have that in all texts of the United Nations, but finally you have a Security Council that is, with the same flag, promoting sanctions, and there the neutrality is lost. And therefore, the respect in the field is much more difficult to be ensured as the one of the Red Cross, Red Crescent movement.
Oui, oui, c'est une question très pertinente. Alors, je pense qu'elle a, y a deux composantes. La première, c'est la composante finalement communautaire. Comment est-ce qu'on fait pour toucher les communautés et faire en sorte qu'une communauté s'autogère, s'autoprotège Parce que finalement, celui qui tire sur l'ambulance, il appartient aussi à une communauté. L'objet d'une action communautaire développée à travers ce réseau dont j'ai parlé de la société civile fait partie intégrante du projet. Mais c'est probablement un sujet sur lequel on a encore beaucoup à travailler. Et puis le deuxième, c'est ça. C'est quelque part de faire passer en bout de piste, auprès de l'infirmier dans son dispensaire, auprès d'un maximum de gens possibles, quels sont les droits et devoirs, c'est quoi la réflexion sur l'impartialité, parce que c'est un problème du quotidien. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est, je suis conscient que tout le monde ne lira pas ce livre, même dans cette salle, et donc quelque part on essaye d'en faire un instrument de e-learning, donc un instrument qu'on puisse atteindre à distance. Donc on est conscient du fait qu'il faut qu'on réussisse à trouver les outils pour travailler au niveau local, et le développement de ces outils passe par une meilleure diffusion de ce qui existe, tout autant que de voir comment est-ce que on travaille avec les leaders locaux.
Non, ma question c'est dans les contextes qui, comme elle disait, dans les contextes qui sont plutôt au niveau municipal, communautaire. Par exemple, il y a une expérience déjà de protection de la mission médicale à Medellín, à Rio de Janeiro, dans des contextes de violence urbaine, et ça ne s'est pas couvert par les conventions, ou ça fait infra-DIH, tout ça, dans des contextes tribaux comme la Papua Nouvelle-Guinée. Il y a des expériences que peut-être à des activités pas au niveau trop élevé, mais plus communautaire, plus au niveau municipal. Mais ce qui est trop vraiment difficile, c'est quand il y a l'autre côté qui est caché. Par exemple, la question de la violence al-Qaïda, la question de quand il faut négocier avec un contrepartie, qu'il faut passer des messages qu'on ne peut pas les passer parce que n'est pas visible la contrepartie pour humaniser la question des soins de santé dans quel contexte.
Bon là, c'est une question jusqu'à demain matin, hein, ça. je pense que la deuxième partie de la question, je rentre pas là-dedans parce que si vous voulez, je crois que c'est difficile de faire une réflexion par rapport à des groupes spécifiques, etc. Mais la première partie de votre question, c'est la question finalement de la violence urbaine. Comme je l'ai dit, la semaine dernière j'étais au Brésil, la semaine dernière j'étais à Rio, et j'ai eu l'occasion de voir comment le ministère de la Santé publique travaillait avec des expériences qui sont en fait des expériences de la Croix-Rouge pour gérer les aspects de la violence urbaine. Donc je crois qu'aujourd'hui ce sont des petites initiatives, mais quelque part dont la pertinence s'inscrit justement, comme la question précédente l'évoquait, comment est-ce que les communautés se gèrent. Et la particularité, je dirais, de la violence urbaine à Rio est certainement liée au fait que c'est le voisinage, c'est-à-dire celui qui souffre et celui qui génère la souffrance vivent côte à côte. C'est pas des groupes qui viennent de l'extérieur, etc. Donc il y a des réponses spécifiques à ces contextes-là, mais on n'aura pas la réponse fin 2015, mais on travaille aussi là-dessus.
Est-ce que j'ose une question-réflexion un peu plus de classe? Soins de santé dit moyens financiers, dit économique. Et est-ce que la mise en cause, en fait, de ces soins de santé par les individus, les personnes, etc., c'est pas aussi le simple reflet de telles différences économiques que ceux qui ont peu, en fait, un, on peut à perdre, et puis que deux, de régler les comptes avec ceux du monde.
Bon, Ça aussi, c'est une question compliquée. Mais je vais vous dire, vous savez, la Syrie avait le meilleur système de santé publique de la région. Le meilleur. À tel point que les Libanais allaient se faire soigner en Syrie. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, la production des médicaments qui se produisait à 95% en Syrie ne se fait plus. C'est pas simplement que les Libanais ne peuvent plus aller se faire soigner en Syrie, mais c'est les Syriens qui inondent le système libanais. Je crois qu'il faudrait découper cette question et l'analyser en fonction des différents systèmes. Je crois, si vous voulez, que le système que nous évoquions à Rio, qui est un système très communautaire, qui est la transposition du système de santé cubain, il y a des conséquences de nature différentes que dans un système proprement plus orienté sur le curatif. Donc je crois que votre question mériterait, si vous voulez, d'être analysée, mais de manière contextuelle. Alors ça, c'est un sujet extrêmement délicat, en particulier dans certains contextes. Alors, je peux vous dire que c'est un problème qui est pris à part entière, comme un problème prioritaire, et avec une question particulière qui est les menaces qui sont portées à l'égard du personnel de santé, qui serait en mesure de dire qui a fait. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui apparaît dans certains contextes où ceux qui reçoivent les femmes qui ont été violées, quelque part, ne sont pas simplement les témoins des conséquences du viol, mais peuvent être, quelque part, parfaitement mis au courant de ceux qui les ont commis. Et ce met là un système en place qui est la menace sur ce personnel pour qu'il ne vienne pas témoigner. Donc, pour répondre à votre question, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le gender-based violence, tout ce qui concerne la question des femmes fait partie du projet, mais pas de manière spécifique, et ce que vous avez évoqué y inclut, mais particulièrement sous l'angle que j'ai évoqué.
Je crois que nous allons à la fois remercier M. Louis Achayash Chauvin pour sa brillante présentation, et puis nous allons interrompre ce moment de questions-réponses, sauf s'il y a encore une question brûlante. Non. Alors, dans ce cas-là, un grand merci. On nous a promis ce petit ouvrage en français bientôt, mais si un anglophone a envie de celui-ci, je crois qu'il pourra le prendre tout de suite. D'autre part, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h à la Fondation Louis Jeantet pour une journée nouvelle sur notre thème de ces 3 jours. Bonne soirée et à très bientôt.